RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui au Mexique, 25 ans après le soulèvement zapatiste au Chiapas. À l'époque, l'armée zapatiste de libération nationale, menée par le sous-commandant Marcos, s'était soulevée contre les autorités du pays pour une meilleure redistribution des terres. L'armée zapatiste réclamait aussi une reconnaissance des droits indigènes, une plus grande autonomie, notamment au Chiapas, au sud du pays, à la frontière avec le Guatemala, une des régions les plus pauvres du pays. 25 ans après ce soulèvement, les zapatistes ont laissé de côté la vieille idéologie marxiste pour se rapprocher davantage de l'humanisme et des modes de gouvernement maya, la grande civilisation indienne du Sud. Mexique, les guérilleros zapatistes de retour face à la gauche au pouvoir. C'est un grand reportage de François-Xavier Freland.
Nous sommes à l'arrière d'un combi. Ce petit bus nous emmène au village de la Realidad, communauté autonome zapatiste. Serrés les uns contre les autres, une dizaine de jeunes sympathisants argentins, uruguayens, chiliens, belges, allemands, somnolent. La route chaotique est longue et fatigante, plus de 8 heures de San Cristóbal de las Casas, la capitale du Chiapas, au sud du Mexique. Mais tous sont venus voir Marcos et passer le réveillon avec les guerrieros. Sur le trajet à l'entrée de chaque village, des pancartes rappellent qu'on est désormais dans une région bien particulière, en souhaitant la cordiale bienvenue en territoire zapatiste. Le petit bus s'arrête, nous voici arrivés. En face, un immense portail avec ce slogan « Bienvenue au 25e anniversaire du soulèvement et du début de la guerre contre la fin de l'oubli ». Devant nous, deux hommes et deux femmes assis assurent le contrôle à l'entrée. Ne rentre pas qui veut chez le ZLN, l'armée zapatiste de libération nationale. Un numéro de passe préalablement envoyé par l'organisation zapatiste, après demande faite sur leur site internet, est exigé à l'entrée. La fouille corporelle exécutée, nous pénétrons. Quelques baraquements plus loin, une foule importante attend devant une estrade. Nous avons raté le défilé des troupes juste avant, mais ils sont bien là, les combattants, en treillis complet, passe-montagne sur le visage, casquette verte flanquée de l'étoile rouge ou du sigle EZLN, bandana de la même couleur autour du cou. Sur scène, le sous-commandant Moïsès prend la parole.
Celui qui est au pouvoir veut détruire le peuple du Mexique. Et principalement les peuples indigènes. Il va nous trouver, et en particulier nous, l'armée zapatiste de libération nationale. Que ce soit bien clair, nous n'avons pas peur de lui. N'est-ce pas, mes chers compagnons ?
Celui qui est au pouvoir, dit le sous-commandant Moïsès, le chef principal désormais des zapatistes, en parlant du nouveau président socialiste Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO. Alors que les zapatistes semblaient avoir disparu des écrans radars, les voilà plus que jamais remontés contre un État mexicain aux mains d'un homme de gauche pour la première fois de son histoire. Paradoxal, quelques semaines plus tôt, le nouvel homme fort de Mexico est venu embrasser le sol et prêter allégeance aux autorités indiennes, pour la plupart des descendants de Mayas, afin d'obtenir leur soutien pour le lancement des grands projets miniers, énergétiques et ferroviaires. Le fameux train Maya qui doit rejoindre Cancun, la grande station balnéaire du sud-est, au Chiapas, en passant par le Yucatan. Un train moderne, touristique et culturel, selon les propres mots du président López Obrador. Mais les zapatistes y voient un projet dévastateur pour l'environnement et la culture des peuples indigènes, selon Oscar Espino, représentant de l'EZLN dans l'état de Veracruz, juste à côté, où doit justement passer ce train.
Hoy simulan incluso que le preguntan a la madre tierra cuando es más una...
Aujourd'hui, ils font croire qu'ils demandent l'autorisation à la terre-mère, mais tout cela ressemble plutôt à du théâtre, soi-disant qu'ils respectent la terre. Car on sait très bien que ce qu'ils vont faire, c'est la dévaster en mettant en péril la biodiversité et la méga-diversité culturelle et écologique qui existe dans toute cette région. Ces gens ne vont pas transporter les peuples autochtones. D'ailleurs, ils ne devraient pas s'appeler le train Maya, car on ne va pas transporter notre culture, ni transporter nos modes de vie. Ce train ne va certainement pas transporter notre mouvement, encore moins notre manière de faire les choses. Ni notre langue, ni nos propres mots font partie de ce projet. Alors nous, on les prévient. Nous allons nous défendre.
Tampoco nuestra lengua ni nuestras palabras caben en esos proyectos, pues. Lo que decimos es que sí, nos vamos a defender.
Hermanos. Le sous-commandant Moïsès est désormais celui qui a remplacé le sous-commandant Marcos, dont la voix est devenue mythique grâce notamment à cette chanson de Manu Chao. Marcos, le nouveau Che Guevara des années 90, celui qui avait mené la guérilla en 1994 contre l'État mexicain, se fait désormais appeler sous-commandant Galiano, du nom d'un instituteur zapatiste assassiné ici, dans ce village de la Realidad, par des paramilitaires en 2014. Avec son retrait à l'EZLN, l'ancienne idéologie marxiste-léniniste a laissé la place à une vision plus indienne et humaniste, inspirée des ancêtres mayas. Jérôme Bachet, auteur de La rébellion zapatiste parue chez Flammarion, est professeur à l'Université autonome de San Cristobal de las Casas.
D'une part, il y a une critique très forte depuis le début du personnage Marcos, qui évidemment est un des éléments qui a attiré beaucoup de sympathie, beaucoup d'intérêt, notamment médiatique, mais au détriment peut-être justement de la réalité profonde du mouvement qui est très ancrée dans les traditions des peuples indiens du Chiapas. Le principal dirigeant de l'EZLN n'est plus le sous-commandant Marcos, mais le sous-commandant Moïsès, qui est lui-même un indien de Tseltal. Donc on a un passage d'un dirigeant métis à un dirigeant indien.
Un groupe de musique zapatiste locale entonne des airs de cumbia et de musique norteña qui font danser les combattants, hommes et femmes, les visiteurs du soir, les sympathisants de la cause. Pour quelques pesos, la monnaie mexicaine, des femmes servent des tacos, la célèbre crêpe de farine, avec un jus de fruits. Aucun alcool n'est toléré dans l'enclave des zapatistes cette nuit-là. La discipline est l'une des règles chez cette guérilla armée, mais pacifique. Puis, lentement, les uns et les autres vont se coucher par terre sous une immense toile dressée à l'occasion. Le lendemain au réveil, des hommes armés avec talkie-walkie nous invitent gentiment à quitter les lieux. Nous grimpons dans des camionnettes et nous découvrons alors cette route escarpée à flanc de montagne, à la fois magnifique au milieu d'une forêt dense et extrêmement dangereuse au bord du ravin. Les camions se croisent difficilement.
On n'est pas loin.
La chaussée n'est pas asphaltée. Une volonté de l'État ou une manière pour le mouvement zapatiste de garder le contrôle dans cette région enclavée. Un peu des deux. Car si Marcos s'est mis en retrait du mouvement, la lutte, elle, ne s'est pas arrêtée. En 25 ans, en réalité, le mouvement zapatiste n'a jamais cessé d'être en guerre ou de faire parler la poudre. Certes, des accords de paix ont été signés en 1996 entre les zapatistes et les autorités centrales du Mexique. Certes, ces derniers ont obtenu une certaine reconnaissance des droits indigènes, à la terre, à l'habitat, à l'éducation, mais ces accords n'ont jamais été réellement respectés dans les faits. Les attaques, les provocations de la part de la police, de l'armée, voire des paramilitaires, souvent liés au trafic de drogue, sont régulières, avec leur lot de petits paysans assassinés. Et si les zapatistes ont mis en place de fait un territoire autonome qu'ils considèrent autogéré par les populations locales, avec ces conseils de bon gouvernement créés en 2003, censés remplacer les mairies, la zone qu'ils occupent reste l'une des plus pauvres de tout le pays. Nous nous rendons à la communauté zapatiste du Caracol d'Oventic, à quelques kilomètres seulement de San Andrés, la même où a été signé en 1996 le fameux accord de paix entre l'État mexicain et l'EZLN, reconnaissant plus de droits aux peuples indiens. Mais qu'est-ce qu'un caracol, Jérôme Bachet ?
Alors les caracols, c'est le nom qui a été donné aux 5 centres régionaux des zapatistes. Là, par exemple, où siègent les conseils de bon gouvernement. Donc, c'est là aussi où ont lieu les rencontres, les grandes rencontres zapatistes, nationales ou internationales. D'abord, c'est un objet très important, puisque le caracol, c'est un gros escargot de mer ou de rivière qui est utilisé comme instrument de musique. Il y a des représentations dans les peintures mayas antérieures à la conquête. Et donc, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi un instrument pour appeler la communauté à se réunir, pour les assembler ou en cas de danger. Et dans cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, il est expliqué justement qu'il se fait en spirale. Donc c'est l'idée de la spirale. Donc les choses ne se font jamais en ligne droite, comme on en a un peu l'habitude dans la modernité, où pour nous, selon les schémas de la modernité, il faut des autoutes qui vont joindre de la manière la plus rapide le point A au point B. Et bon, la manière de faire indienne, c'est plutôt justement la spirale. Donc il faut avancer, mais en même temps reculer, revenir vers l'arrière, reprendre conscience de ce qu'on a fait avant, retourner vers le passé pour mieux avancer vers l'avant. Et donc c'est de cette manière-là qu'ils conçoivent la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est une rupture avec les idées de linéarité, aussi de temps linéaire qui est propre à la modernité. Et puis bon, évidemment, le plus évident peut-être, c'est que le caracol, c'est aussi le symbole de la lenteur. Il y a beaucoup de peintures murales dans les où on voit l'escargot qui dit « lento, pero avanzo », donc « lentement, mais j'avance ».
Au caracol d'Oventic, donc, derrière des grillages et la garde très rapprochée de quelques combattants, une route toute droite descend le long du petit village, avec d'un côté son épicerie, sa boutique de souvenirs, son cybercafé, son église, sa clinique, son terrain de basket et surtout son école. Partout sur les murs, on peut admirer des graffitis à l'effigie du sous-commandant Galliano, des slogans anticapitalistes aussi. Toujours dans cette zone zapatiste, aucun des gardes n'est habilité à s'exprimer. C'est une visite silencieuse dans ce qui est présenté comme un village modèle. C'est ici que le 11 novembre dernier a eu lieu le premier festival de cinéma Caracol de Pouille, Ta Cous Lejaltic, en langue maya celtal, littéralement l'escargot de notre vie, qui a rassemblé 5000 personnes venues du monde entier. Et c'est ici que le film Roma du Mexicain Alfonso Cuarón a été projeté en avant-première. Esperanza gère une petite exploitation agricole bio et équitable. Elle est sympathisante zapatiste mexicaine.
À mes 18 ans, dès que j'ai eu l'âge de voter au Mexique, j'ai été attirée par leurs idées, leurs messages. Le fait aussi de voir qu'ils travaillaient pour la base. Ils mettaient en avant ce fameux slogan « À gauche, en bas, se trouve le cœur ». Ils promouvaient des idées très à gauche, très humanistes. Et définitivement, ce mouvement a marqué profondément mon inclinaison politique. En plus, AMLO a changé. Il n'est plus le candidat qu'il était en 2006. Son discours a beaucoup évolué ces 12 dernières années. Et je crois qu'une partie de la gauche n'est pas très satisfaite de ce changement, justement, chez AMLO.
Muy contenta con todo este cambio de discurso actualmente de AMLO.
Retour à San Cristóbal de las Casas, la capitale du Chiapas, la même où avait commencé le soulèvement en 1994. Certains n'ont pas oublié les images de combats dans les rues, les chars de l'armée mexicaine disposés aux quatre coins de la ville. Depuis, cette petite bourgade coloniale est devenue le centre d'un tourisme zapatiste bon enfant. À tous les coins de rue, des boutiques de souvenirs avec des porte-clés à l'effigie du héros Marcos. C'est dans cette magnifique ville qui semble s'être détachée du temps, avec ses marchés indiens odorants, aux tissus chatoyants, ses rues animées, douces et vivantes, son bar de la Révolution, que tout a commencé en 1994. Aujourd'hui peut-être, grâce à cette résistance à la modernité consumériste, on est très loin des hypermarchés et des fast-foods du nord du Mexique, sur le modèle états-unien. C'est dans un de ces petits hôtels remplis de jeunes routards que vit temporairement Gary Crane. Cet homme de 70 ans, Bob Fleury, vissé sur la tête, allure post-hippie, a travaillé avec l'équipe de Bernie Sanders, le candidat malheureux très à gauche, lors des primaires du Parti démocrate aux dernières élections présidentielles aux États-Unis. Cet intellectuel, réalisateur de documentaires et écrivain, est ici pour quelques mois afin de s'inspirer des méthodes de gestion zapatistes, mais surtout de leur lutte pour la sauvegarde de l'environnement, afin encore de faire remonter certaines idées auprès de la gauche américaine.
I'm very curious. Time magazine always has a word of the year.
Je suis très curieux ici. La revue Time Magazine a élu comme mot de l'année justice. Justicia, moi j'ajouterais parmi les priorités, en partant de cette phrase, la nature frappe en proportion des mauvais traitements qu'on lui inflige. Cette idée environnementale germe de plus en plus dans ma tête. Individuellement, l'homme est faible, mais dès qu'il s'organise en nation ou groupe, ou ce que vous voulez, il est beaucoup plus fort. Et je crois que face à tous ces périls, ces sites nucléaires, ce danger imminent, il est temps de s'organiser. Aujourd'hui, le Parti démocrate est en train d'évoluer et vous voyez de plus en plus dans ce parti un virage vers l'écologie, avec l'idée qu'il faut impérativement imposer un nouveau projet de plus en plus écologique, avec l'idée qu'il faut impérativement imposer un nouveau projet de société plus écologique. Face aux Républicains, on a pris conscience qu'il fallait imposer rapidement un plan Marshall pour l'environnement afin de provoquer une rapide reconversion de notre économie pétrolière.
C'est donc à San Cristóbal de las Casas, dans cette ville provinciale et d'apparence tranquille, que les zapatistes ont créé la première université autonome, Sidesi Unitiara Chiapas. Située dans un quartier pauvre, dans les faubourgs, son apparence surprend au premier coup d'œil. Les bâtiments sont tous peints de couleurs différentes, tout y est extrêmement ordonné, rangé et propre, pas un papier ne traîne. C'est l'école modèle du zapatisme où l'on apprend les valeurs d'entraide, de partage, de travail pour tous. Derrière la voix du guide, les haut-parleurs diffusent de la musique classique, des airs de Bach, de Mozart ou autres, que l'on retrouve dans chaque atelier. Une ambiance spirituelle règne dans les lieux, une manière de calmer les esprits et d'encourager au travail. La discipline est encore la règle dans cette université qui accueille les enfants défavorisés, déscolarisés des villages voisins pour les former à un métier concret. Ici le cordonnier, là le boulanger ou le mécanicien, là encore le musicien. Régulièrement, des colloques ont lieu ici sur de grands thèmes politiques comme l'hydre du capitalisme. Esperanza, sympathisante de l'EZLN, a fait partie d'un de ces colloques féministes zapatistes l'an passé.
Ce qui m'a beaucoup impressionnée lors de cette expérience, c'est le niveau d'endoctrinement. Par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs compagnes et souvent j'avais l'impression qu'elles répétaient un discours, notamment au sujet de la malgouvernance ou du patriarcat. À ce moment-là, on en parlait beaucoup. Il y avait un discours très anti-patriarcal. Ok, c'est bien, on est toutes d'accord, mais ce n'est pas mal aussi de se faire sa propre opinion, d'avoir un discours critique propre. Ça fait partie des choses qui ne m'ont pas plu. Et puis, tu les vois toujours bien disciplinées, en file indienne, porter en permanence le passe-montagne. Et parfois, je voyais mes compagnes faire la cuisine ou marcher au soleil avec le passe-montagne. Pour moi, c'est ce côté extrême qui ne me paraît pas bien.
Eso para mí ya es un extremo que...
Aujourd'hui, le mouvement zapatiste, alors qu'il fut longtemps populaire pour avoir défendu et fait entendre la voix des peuples indigènes, opprimés ou oubliés de la révolution mexicaine, est parfois critiqué, voire méprisé dans le reste du Mexique pour son aspect folklorique. La gauche, celle qui a soutenu le président López Obrador, lui reproche ses positions trop radicales, son manque de réalisme. Mais le EZLN tient encore, malgré ses 25 bougies, justement parce qu'il est une sentinelle, face aux abus de politiques économiques étatiques parfois considérées injustes et peu soucieuses de l'environnement. Avec le réveil des zapatistes, deux gauches semblent s'opposer, l'une plus pragmatique, centralisatrice, plus populiste aussi, avec un seul leader, López Obrador, l'autre plus régionaliste, plus écologique et anti-leadership, mais armée, celle au visage anonyme cagoulé des zapatistes, Jérôme Bachet, historien spécialiste.
Alors bon, on a parlé d'une vague des gouvernements progressistes en Amérique latine depuis une quinzaine d'années, avec la Bolivie, l'Équateur, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, c'est un tout petit peu différent, mais ça rentre aussi dans cette vague. On est maintenant au terme de ce mouvement, et donc c'est d'une certaine manière le moment du bilan de ces gouvernements, qui en effet n'est pas forcément aussi positif qu'il pouvait paraître. Il y a quelques années, le nouveau gouvernement mexicain, le nouveau président mexicain, d'une certaine manière, s'inscrivent dans cette vague et il arrive un petit peu à contre-temps par rapport à la tendance générale en Amérique latine. Et donc, évidemment, la position des zapatistes à l'égard de ce nouveau pouvoir est la même que celle qu'il avait adoptée à l'égard des gouvernements progressistes en Amérique latine. Donc, on est sur deux logiques politiques totalement différentes. Et opposé. Donc peut-être que c'est un moment intéressant pour s'intéresser plus encore à l'expérience zapatiste, puisque les zapatistes avaient d'une certaine manière averti que cette évolution-là était probable, et en tout cas représente un autre choix, une option totalement différente, en ce que précisément elle renonce à passer par la conquête du pouvoir d'État.
Ironie du sort, ou histoire qui se répète inlassablement, le révolutionnaire Emiliano Zapata, qui a inspiré le nom du mouvement zapatiste d'aujourd'hui, fut assassiné il y a 100 ans, en 1919, par les troupes de José Carranza, président social-libéral que Zapata avait pourtant aidé à prendre le pouvoir. Mexique, les guerrieros zapatistes de retour face à la gauche au pouvoir. C'était un reportage de François-Xavier Froland.